France Culture.
La science CQFD, Natacha Trioux.
Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec une astrophysicienne, une chasseuse de neutrinos, ces particules fantômes, Kumiko Kotera est notre invitée. Ces particules particulières, très difficiles à détecter, vont être les clés de l'astrophysique des autres énergies du futur. Ce sont des messagers envoyés par l'univers violent, avec ses explosions de supernovae, ses fusions de trous noirs, ses pulsars et ses mystérieux rayons cosmiques. Récemment, nous venons de débusquer le neutrino le plus énergétique jamais détecté grâce à l'observatoire KM3Net logé dans les abysses de la Méditerranée. Mais pour mettre la main sur des neutrinos d'ultra haute énergie d'origine extragalactique, la chercheuse est en train de réinventer la radiodétection. Kumiko Kotera, la gardienne de l'extragalaxie. Et Kumiko Kotera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, directrice de recherche CNRS, spécialisée dans les phénomènes de haute énergie, porte-parole du projet international Grande et directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris depuis janvier 2025. Mille merci d'être avec nous en direct. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invitée.
Mais merci à nos auditeurs qui nous écoutent à toute heure sur l'appli Radio France ou en podcast sur radiofrance.fr. Alors n'hésitez pas également à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources et sur notre compte @sciencecqfd. Alors qu'étudie-t-on lorsque l'on étudie l'univers violent? Pourquoi les neutrinos sont-ils une nouvelle façon très précieuse d'observer le cosmos? Et quelles sont les spécificités de ces particules subatomiques? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour, quand en 1947, le portrait de famille de ces particules élémentaires s'élargit.
La spectrographie des noyaux commence tout juste. De nouvelles particules viennent d'être découvertes. Je rappelle qu'en 1918, nous ne connaissions guère que le proton, particule positive, l'électron, particule négative. Depuis, les physiciens ont découvert l'électron positif, un neutron, une particule sans charge électrique, ont inventé, je ne dis pas découvert, parce que là, nous ne l'avons pas encore mis en évidence, c'est une particule hypothétique, ont inventé le neutrino, particule fantôme, qui n'a ni masse, ni charge électrique, et qui ne produit, on peut dire, aucun effet en traversant la matière, ce qui ne rend pas évidemment facile sa mise en évidence. Et puis, au moins deux espèces de particules intermédiaires entre l'électron et le proton, que nous appelons des mésons. Vous voyez que la botanique des particules élémentaires s'accroît de jour en jour. Mais peut-être le caractère le plus remarquable de la physique actuelle est celui de l'exploration des très grandes énergies. Dans les laboratoires, nous produisons artificiellement des particules d'une énergie qui peut atteindre actuellement 300 millions de volts. C'est un chiffre déjà assez remarquable, mais il nous paraîtra bien petit si nous songeons à l'énergie des particules qui nous arrivent des espaces interstellaires et que l'on appelle rayons cosmiques, et dont l'énergie est au moins un milliard de fois plus élevée que ces 300 millions de volts. Mais que ces grandes énergies ne nous fassent pas peur, chacune de ces particules porte beaucoup d'énergie, mais comme elles sont très peu nombreuses et qu'elles sont très petites, l'énergie totale qui arrive sur la Terre sous forme de rayons cosmiques est très faible. Elle est à peine égale à l'énergie qui lui arrive des étoiles, cette fameuse obscure clarté. Donc, aucune inquiétude pour nous, pour notre santé. Je me tourne vers le professeur Valeriano. Les rayons cosmiques ne nous font aucun mal.
D'ailleurs, nous serions tous morts. Si.
Ne nous font d'ailleurs aucun bien non plus.
Voilà, perspective scientifique pour 1948 dans la Tribune de Paris, diffusée sur la ORTF en 47 avec la voix du physicien Pierre Auger. Kumiko Kotera, 1948, voilà, le neutrino est une particule encore hypothétique.
Oui, déjà c'est émouvant d'entendre la voix de Pierre Auger, qui est effectivement le père de tout le domaine que j'explore aujourd'hui. C'est formidable d'entendre ça. Donc oui, le neutrino est encore une particule hypothétique. Le neutrino, au moment où Pauli, le grand physicien, le théorise. Il dit, j'ai fait une chose terrible, j'ai postulé l'existence d'une particule qui ne peut être détectée. Et il a fallu attendre assez longtemps pour que ça le soit. Mais voilà, effectivement, elle devient aujourd'hui l'un des messagers du cosmos.
Voilà, ce qui va être en effet un messager très important pour l'astrophysique contemporaine. Et en effet, nommé en 1932 par Enrico Fermi, neutrino, parce que une petite particule neutre, on appelle aussi ça des particules fantômes, parce que quasiment sans masse.
C'est ça, quasiment sans masse. Donc Auger, Pierre Auger dit qu'elle n'a pas de masse. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Depuis qu'on les a détectées, on sait qu'elles ont une masse. Ça c'est... Mais très faible. Et effectivement, elles n'interagissent que très peu. C'est une particule extraordinaire dans la botanique, comme il le dit, des particules ordinaires, donc des particules qu'on a l'habitude de manipuler. Et cette spécificité des neutrinos vient du fait qu'ils traversent tout. En particulier, nous, donc on reçoit des neutrinos qui viennent du Soleil, qui sont produits par le Soleil de façon constante. Chaque seconde, on est traversé par 100 000 milliards de neutrinos. Et il faudrait qu'on vive 100 ans pour qu'un neutrino daigne interagir avec nous.
Voilà, donc en fait, un neutrino, ça peut aussi traverser la Terre de part en part sans encombre et sans laisser de traces.
Tout à fait.
Alors l'autre aspect de cette archive qui m'amusait, en plus on entendait une intervenante de l'archive soupirer, rien que en parlant de ces rayons cosmiques, qui ne font donc aucun mal, ces rayons cosmiques qui sont encore aujourd'hui, Kumiko Kotera, des énigmes.
Oui. C'est ça qui est fou, c'est que depuis l'époque de Pierre Auger, là qu'on vient d'entendre, on ne sait toujours pas d'où proviennent ces particules. Ces particules de plus haute énergie. Donc il parle d'énergie extrême. Là, il a dit 100 millions de volts. Donc ça, alors, aujourd'hui, on détecte des particules qui sont encore plus à plus haute énergie, donc 1000 fois cette énergie-là, mais on ne sait toujours pas, donc toutes ces particules, on ne sait pas d'où elles viennent, d'où elles sont produites, où elles sont produites dans le cosmos, c'est extrêmement mystérieux. On sait que probablement ça provient des événements les plus violents, les plus explosifs, qui libèrent le plus d'énergie dans le cosmos, mais on n'a pas encore réussi à faire le lien entre ce qu'on détecte sur Terre et ces événements-là.
Alors justement, vous venez d'utiliser le terme des événements violents. Quand on dit travailler sur l'univers violent, finalement, de quoi parle-t-on ?
Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on sort le soir dehors et qu'on regarde le ciel, on a l'impression que tout est paisible, tout est immuable. Or, ça, c'est une vision fausse du cosmos qui est en réalité peuplée d'astres qui vont pétiller, jaillir, exploser. Et c'est ça l'univers violent. C'est un univers qui s'est révélé à nous, qu'on savait vaguement exister, mais qui s'est vraiment révélé à nous ces dernières décennies, voire cette dernière décennie. C'est des objets qui libèrent une telle quantité d'énergie en un temps tellement bref qu'il faut avoir la possibilité instrumentale, donc technologique, de les repérer. Et ça, c'est vraiment tout nouveau comme domaine.
Parmi justement ces événements et ces phénomènes à haute énergie, il y a ces fameux rayons cosmiques, Kumiko Kotera. En 2009, vous avez soutenu une thèse sur ces fameux rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Pourquoi vous y êtes-vous intéressée en particulier ?
Alors, à la base, j'étais très intéressée par tout ce qui était infiniment grand. Et c'est cette poésie-là qui me donnait le vertige et qui m'intéressait. Mais, il se trouve que mon directeur de thèse, mon futur directeur de thèse que j'ai été voir, un peu comme ça à l'improviste, proposait une thèse sur des particules infiniment petites qui se baladaient dans l'infiniment grand. Et en plus, elles étaient très mystérieuses puisqu'on ne savait pas d'où elles provenaient. Encore et toujours aujourd'hui, et donc ça m'a plu.
Oui, parce que quand on parle de rayons cosmiques, c'est un peu particulier, parce que finalement ils n'ont de rayons que le nom. En réalité, ce sont essentiellement des noyaux atomiques, c'est ça ?
C'est ça.
Alors qu'est-ce que sont ces noyaux atomiques ?
Donc le rayon cosmique, c'est de la matière vraiment très ordinaire. On n'est même pas dans le neutrino, c'est la matière qui nous entoure. Donc ça peut être des noyaux d'hydrogène, c'est des noyaux de fer, c'est tout ce qu'on connaît. Par contre, ce sont des particules, comme c'est des noyaux atomiques, donc vous savez, dans les atomes qui constituent la matière qu'on connaît, il y a un noyau atomique au cœur et entouré d'électrons. Donc ce noyau central est chargé positivement. Et c'est cette charge qui rend tout compliqué. Parce que ces particules chargées vont se propager entre leur source et la Terre. Et ce faisant, comme l'univers tout entier est magnétisé, se comporte comme une série d'aimants, les particules qui partent de la source et arrivent jusqu'à nous vont être défléchies, déviées par tous ces champs magnétiques. Et au lieu d'arriver tout droit, ils vont donc prendre des parcours un peu compliqués. Et au moment où ils arrivent sur Terre, eh bien, on a perdu la trace de la source à cause de ce parcours complexe. C'est ça qui rend ces particules si mystérieuses. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à remonter à la source.
C'est pour ça que ça reste un mystère, justement, depuis les années 60.
Exactement.
Mais alors, parce qu'un rayon cosmique de ultra haute énergie, ça vient donc d'une source qu'on ne connaît pas, avec un mécanisme d'accélération qu'on ne connaît pas non plus. Par contre, c'est en interagissant avec des photons, de la matière, que ça produit des neutrinos qui, eux, vont peut-être nous indiquer et nous permettre d'en comprendre plus sur ces rayons cosmiques, c'est ça ?
Exactement. Les neutrinos sont une aubaine pour l'étude des rayons cosmiques de ultra haute énergie, puisque donc ce sont des particules filles, comme vous le dites, de ces rayons cosmiques lorsqu'ils interagissent. Et comme leur nom l'indique, ces particules sont neutres, neutrinos, et vont se propager en ligne droite. Donc là, lorsqu'on reçoit sur Terre un neutrino, on va pouvoir remonter à la direction d'arrivée de ces particules et retrouver la source.
Oui, ça c'est très utile pour faire de l'astronomie. Donc.
Oui, complètement, complètement.
Alors, cette autre particularité de ces particules particulières, c'est qu'on vient de le dire, elles sont quasiment sans masse, elles sont omniprésentes, mais elles sont aussi de différents types. On parle aussi de saveurs de neutrinos, et ça c'est assez particulier dans ce tableau des particules élémentaires.
Oui, ça dit beaucoup de la poésie des physiciens ou de la gourmandise des physiciens. Oui, les neutrinos ont ce qu'on appelle la saveur, qui est une caractéristique physique qui correspond globalement à leur compagnon, ou en tout cas à la particule dans laquelle elle peut se transformer lorsqu'elle a une interaction. Voilà, on peut voir ça un peu comme ça. Donc un neutrino électronique va se transformer en électron va générer un électron lors d'une interaction. Un neutrino muonique va générer un muon, et un neutrino tauique un tau. Donc dans la réalité, c'est beaucoup moins poétique que ce qu'on peut imaginer, mais moi j'aime bien en fait cette caractéristique aussi, parce que ça donne cette dimension du goût à l'univers. J'aime bien me dire que aujourd'hui on explore l'univers non pas juste avec la lumière, avec la vue, mais aussi avec le toucher, avec les rayons cosmiques qu'on peut vraiment, qui sont tangibles, qui sont de la matière, mais aussi avec le goût, avec la saveur des neutrinos.
Alors, l'autre chose étonnante, c'est qu'ils peuvent passer spontanément d'une saveur à l'autre au cours de leur déplacement.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'oscillation des neutrinos, qui a été découverte avec la mesure des neutrinos solaires. Donc on a pu remarquer que les neutrinos, lorsqu'ils se propagent, lorsqu'ils traversent le cosmos, vont osciller d'une saveur à une autre. Ça, c'est lié à la mécanique quantique, c'est que c'est très peu intuitif. Ça veut dire qu'un neutrino n'est jamais vraiment n'a pas de saveur associée propre. Il est toujours dans plusieurs états à la fois, et au cours de sa vie, il va osciller entre ces états-là.
Ce sont même les seules particules élémentaires qui sont douées de cette propriété, hein, qu'on appelle oscillation. Ouais. Et l'autre, donc plusieurs types de neutrinos, plusieurs saveurs, mais aussi donc plusieurs énergies, différentes énergies. Ceux de très haute énergie et les ultra haute énergie, Kumiko Kotera.
Oui, déjà il y a ceux du Soleil. Ceux qui sont produits lorsque le Soleil fait des réactions nucléaires en son sein. De toute façon, dès qu'il y a une réaction nucléaire, souvent, il y a un neutrino qui est émis. Et donc, il y a les neutrinos solaires qui nous traversent constamment. Et à 1 milliard de fois l'énergie des neutrinos du Soleil, on a les neutrinos astrophysiques, donc qui viennent de sources du cosmos, qui sont aujourd'hui détectés de façon routinière par IceCube, qui est un détecteur, un gros instrument de 1 km cube dans la glace au pôle sud. Donc ça, c'est tout récent. Ça a commencé en 2013. Donc on est en plein essor de ce domaine-là. Et à ultra haute énergie, donc là on parle de 100 à 1000 fois plus haute énergie que ce que IceCube détecte, là on est dans les neutrinos de ultra haute énergie, qui sont les particules filles des rayons cosmiques pour lesquels on aimerait connaître les sources.
Alors comment les détecter ? Pourquoi vouloir étudier les neutrinos de ultra haute énergie ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
direct sur France Culture. Nous avons la chance de nous entretenir une heure avec Kumiko Kotera, la nouvelle directrice de l'Institut d'Astrophysique de Paris, chasseuse de neutrinos, ces messagers de l'univers violent. Pour vous citer, cela fait une dizaine d'années qu'on commence à explorer cet univers violent d'une façon différente. Et là, enfin, on arrive à accéder à d'autres informations de l'univers, au-delà de la lumière. On y a accès grâce à une panoplie de nouveaux instruments extrêmement précis. Alors, quels sont justement ces instruments? Comment on s'y prend pour détecter ces neutrinos? On a évoqué Ice Cube, mais il y a plusieurs observatoires de neutrinos. Leur particularité, c'est d'être construits en profondeur, Kumiko Kotera.
Pas toujours, d'ailleurs. Pas forcément. Mais jusqu'à présent, c'est vrai qu'on s'est intéressé à des neutrinos qui pouvaient être détectés avec des volumes de l'ordre du kilomètre cube. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de Ice Cube, qui est un bloc de glace instrumenté par des filins sur lesquels de 1 km cube, des filins sur lesquels on a enfilé des détecteurs de lumière. Et lorsqu'on a, comme une guirlande lumineuse, et lorsqu'on a un neutrino qui passe à l'intérieur de ce bloc de glace, le neutrino qui pourtant ne ressent rien dans la glace, dans l'eau, il va finir à un moment par interagir, par collisionner avec les molécules d'eau et produire une particule secondaire qui va pouvoir laisser une traînée. Donc tout ça, c'est pour les très hautes énergies. Donc on a parlé d'Ice Cube, il y a aussi KM3Net qui est la grande actualité. Je ne sais pas si... mais on va y arriver tout de suite.
Ouais, mais en effet, le KM3Net qui est situé, ça c'est la collaboration Ice Cube qui est américain, KM3Net qui est européen et lui situé donc au fin fond de la Méditerranée.
C'est ça. On a une grosse contribution française autour de KM3Net. Donc je pense que c'est très sympa aujourd'hui de citer ça en particulier parce que il y a eu une détection assez extraordinaire très récemment. Enfin. Donc en 2023, mais qui vient d'être annoncé, donc il y a 2 semaines. Et il s'agit de la détection très vraisemblable d'un neutrino de ultra haute énergie, à une énergie à laquelle on ne s'attendait pas, puisque KM3Net était dédié à la détection, et dédié d'ailleurs à la détection de neutrinos de très haute énergie et non de ultra haute énergie. Là, c'est une détection auréolée de mystère.
Auréolée de mystère, d'autant plus que cet observatoire n'est même pas à fond de ses capacités.
Non, pas du tout. Au moment où on détecte cette particule, on a 10% de l'observatoire qui est déployé. C'est ça, je pense, le talent. C'est d'arriver. C'est au moment où on allume. C'est pareil dans les ondes gravitationnelles. C'était pareil. Ils étaient encore en phase d'essai. Et on allume le détecteur. Tout n'est pas prêt, mais paf, on arrive à voir quelque chose. Et là, il se trouve que c'est donc un muon, donc une particule cousine, la particule fille d'un neutrino muonique, qui est détectée à une énergie de 100 fois l'énergie attendue dans un détecteur comme ça. Donc, tout à fait extraordinaire, on ne s'y attendait pas. Et là où je dis que c'est auréolé de mystère, c'est qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Donc ça, c'est curieux. On a soit, donc d'une part, on ne comprend pas pourquoi, enfin on se demande pourquoi, si c'est une particule qui pleut régulièrement sur la Terre, pourquoi est-ce que Ice Cube, qui faisait à l'époque, et qui 10 fois la taille de KM3Net inachevé, et qui opère depuis 10 ans, pourquoi est-ce que Ice Cube n'a rien détecté? C'est étonnant.
Et comment ça s'explique, ça?
Voilà. On ne l'explique pas encore. Donc une autre possibilité, c'est qu'on a assisté à un événement violent, très rare, qui arriverait une fois tous les 100 ans, je ne sais pas, une fois tous les 20 ans, mais extrêmement rare. On a eu de la chance, ça aussi, je dirais, c'est le talent. Mais si c'est ça, les énergies qui sont impliquées sont tellement énormes. Là, on parle quand même d'un neutrino de ultra haute énergie. Ce n'est pas une source quelconque qui produit ça, c'est des sources très rares et violentes et lumineuses, a priori. Et ce qui est bizarre, c'est que dans la direction d'arrivée de ce neutrino, quand on scanne le ciel, il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source qui a pété à ce moment-là. Donc, les astrophysiciens s'interrogent. Et oui, c'est très excitant, c'est très mystérieux. Mais ça veut dire qu'il faut en détecter d'autres. Avec une détection, il ne faut pas trop commencer à broder, je pense.
Mais parce que pour resituer, hein, ce qu'on a réussi à détecter jusqu'à encore assez récemment, c'est des neutrinos solaires, des neutrinos issus d'une supernova en 1987, qui est issue de notre galaxie. On a aussi des neutrinos atmosphériques qui viennent de l'interaction des rayons cosmiques avec notre atmosphère. Et là, donc, cette étude, le 12 février, parue dans Nature, avec ce neutrino de 220 pétaélectronvolts. Alors, c'est aussi, hein, peut-être pour se rendre compte, qu'est-ce que ça représente en termes de quantité d'énergie?
Alors, comme je disais tout à l'heure, donc, par rapport au neutrino solaire, on est 100 milliards de fois supérieur. Et c'est aussi la quantité d'énergie qui est nécessaire à peu près pour faire chauffer votre tasse de thé. Là, vous allez dire, bon, c'est nul. Mais non, c'est pas nul parce que c'est une particule subatomique. C'est quand même une particule qui ne pèse rien et qui quand même entre dans votre tasse de thé et qui la chauffe. C'est fou. Donc, c'est de l'énergie colossale.
Et puis, accélérer une particule aussi légère, c'est extrêmement compliqué.
C'est extrêmement compliqué. Si on voulait utiliser les techniques terrestres pour accélérer, donc les techniques qu'on déploie à Genève, au CERN, pour accélérer des particules jusqu'à ces énergies-là, il faudrait un accélérateur de la taille de notre galaxie.
Bon, maintenant, ça va être un jeu de piste pour remonter à la source du neutrino détecté. Comment va-t-on procéder? Comment remonter à la source, justement?
Eh bien, alors, les gens ont déjà, enfin, la collaboration KM3NAT a déjà pas mal scanné le ciel, elle a fait pas mal d'hypothèses. Là, il y a beaucoup de théoriciens qui sont en train de s'exciter pour essayer de faire des modèles pour expliquer qu'on n'a rien vu en même temps que cette particule-là. C'est super, ça nourrit beaucoup le domaine et le mystère et toutes ces questions. Mais honnêtement, moi, je pense que une particule, ça ouvre la lucarne de ce ciel-là, mais il faut en détecter d'autres. C'est ça qui nous apprendra. Faire la statistique sur une particule, c'est quand même très compliqué. Donc il faut en voir d'autres. Mais ça nous montre que c'est là qu'il faut aller.
Par rapport justement à ces moyens de détection, en tout cas, comment fonctionnent IceCube et KM3NET, pourquoi peut-être qu'on peut revenir aussi sur pourquoi justement les abysses, c'est un endroit de bonnes conditions pour détecter des neutrinos?
C'est surtout l'eau qui est intéressante ici. L'idée, c'est qu'on ait un élément pour faire collisionner les particules. Et puis aussi, effectivement, il faut être assez profond dans l'eau, dans la glace, pour ne pas être pollué par tous les signaux parasites qui peuvent être issus de la Terre, de l'activité, enfin, de l'activité terrestre, de l'activité humaine.
C'est ça, pas de lumière parasite, pas de bruit de fond atmosphérique. Et puis, c'est aussi un endroit, des conditions idéales pour observer ce qu'on appelle la lumière Cherenkov. On peut peut-être redéfinir ensemble, hein, ce qu'on cherche à détecter exactement, c'est cet effet-là.
Oui, l'effet Cherenkov, c'est ce qui se passe lorsque vous avez une particule relativiste, c'est-à-dire qui va, en fait, plus vite que la lumière dans un milieu donné qui n'est pas le vide. Parce que vous avez une particule comme ça qui va extrêmement vite, elle va émettre une lumière, qu'on appelle donc la lumière Cherenkov, qui est une signature qu'on peut observer avec ces capteurs-là.
C'est comme cet effet Cherenkov, c'est un phénomène similaire à une onde de choc, on peut dire, ça produit un flash de lumière.
C'est ça, on peut voir ça comme ça, effectivement.
Alors, quels sont les avantages et les limites de IceCube et de KM3NET? Je vous pose cette question pour évidemment ensuite pouvoir parler du projet grand, mais justement, quels sont ces avantages, ces limites?
Les avantages de... En fait, je dirais que par rapport, si on veut parler du projet grand, on n'est juste pas dans la même gamme d'énergie. Donc, avec KM3NET et IceCube, on atteint d'une... un peu les limites de taille. On sait que à très haute énergie, les neutrinos arrivent avec une certaine fréquence sur Terre qu'on peut donc espérer détecter avec un kilomètre cube. Si on veut aller à ultra haute énergie, il va falloir construire quelque chose de beaucoup plus grand pour récupérer des particules beaucoup plus rares. Et c'est ça le, c'est ça la limite de, des détecteurs à la Ice Cube ou KM3Net. Et, enfin, si on avait des financements infinis et des fonds marins infinis à instrumenter, on pourrait aller plus, plus grand. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce qui est un plan en Chine de faire dans le plus, dans le gigantisme et plus colossal pour détecter ces particules avec ces mêmes techniques. Mais je pense que même en Chine, l'idée, c'est de collecter plus de statistiques dans cette gamme d'énergie, de très haute énergie, plutôt que de viser les ultra haute énergie. En fait, quand on regarde des neutrinos de ultra haute énergie, il y a des signatures particulières qu'on va pouvoir exploiter, qui n'existent pas à très haute énergie. Tout le système de détection peut être repensé, d'où la détection radio.
Quelles sont justement ces signatures différentes selon s'il s'agit de ultra haute énergie ou de très haute énergie?
Ce qui se passe lorsqu'on veut détecter des neutrinos de ultra haute énergie, c'est que, par exemple, la Terre devient plus opaque à ces particules-là. Plus opaque, ça veut dire que le neutrino qui va traverser un bout de roche ne va pas traverser la Terre entière comme pour les énergies KM3Net ou Ice Cube. À plus haute énergie, un neutrino qui traverse 30 km de Terre va interagir. Ça, c'est pas bien ou bien. On peut se servir de ça positivement en se disant, ok, donc si on se sert de la montagne ou de la croûte terrestre comme d'un écran, enfin, ou d'un milieu pour faire interagir les particules, un neutrino qui va rentrer dans la Terre va pouvoir se désintégrer en une autre particule, ressortir et créer une signature qu'on va pouvoir observer plus facilement. Ce qui n'est pas le cas à plus basse énergie. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà.
Si, mais alors justement, à plus basse énergie, par exemple, le fait d'être dans de l'eau glacée, comme pour Ice Cube, ou de l'eau liquide, pour KM3Net en Méditerranée, qu'est-ce que ça change, par exemple?
C'est, en réalité, l'eau est meilleure que la glace. La glace diffuse beaucoup la lumière, et c'est pour ça aussi que KM3Net est plus avantageux pour reconstruire la direction d'arrivée des neutrinos. C'est-à-dire pour pointer dans le ciel la direction d'origine de ces particules-là.
Alors, pour tenter de débusquer des neutrinos à ultra haute énergie, comment le projet Grande va-t-il s'y prendre? Comment va-t-il dévoiler le ciel en neutrinos de haute énergie? Restez avec nous. Steve Humber, Demons of the Subatomic, en direct sur France Culture, car nous parlons de particules subatomiques, nous parlons de neutrinos, avec une chasseuse de neutrinos. Nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Kumiko Kotera, astrophysicienne, directrice de recherche CNRS, spécialiste des phénomènes de haute énergie et porte-parole du projet international Grande, directrice de l'IAP. On vient de parler du fonctionnement des détecteurs actuels, que sont Ice Cube, ou le détecteur européen en Méditerranée. Mais depuis 2014, Kumiko Kotera, vous êtes donc impliquée dans le projet Grande, qui vise à détecter des neutrinos de haute énergie grâce à des dizaines de milliers d'antennes réparties sur plusieurs continents. Concrètement, à quoi va ressembler ce réseau ?
Concrètement, c'est déjà déployé, ça commence déjà à être déployé. Ça va être des antennes qui sont dans le désert, donc il faut absolument aller dans des endroits reculés où il n'y a pas de bruit radio humain et qui seront dispersés avec un kilomètre de distance entre chaque antenne. C'est ça l'idée qu'on a. Et aujourd'hui, on a 46 antennes déjà qui écoutent le cosmos. Et dans le désert de Gobi.
Dans le désert de Gobi. Alors justement, comment ça se passe, cette idée d'utiliser des ondes radio pour écouter des neutrinos?
Oui, alors ce qui se passe d'abord, c'est qu'on a un neutrino qui arrive sur Terre de ultra haute énergie, qui va entrer dans la roche, interagir avec la roche, les molécules de Terre, et produire une particule fille qui s'appelle un tau. Donc on va détecter, nous, les neutrinos tauiques, une certaine saveur. Donc le tau sort de la roche, dans l'atmosphère, et se désintègre parce que cette particule a un temps de vie limité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas stable. Elle ne peut pas vivre sa vie tout le temps sous forme tau. Et à un moment, pouf, elle se désintègre. Et là, cette désintégration va créer plusieurs particules secondaires qui interagissent avec les molécules de l'atmosphère, produire plein de particules secondaires en cascade, et toute cette cascade de particules va générer une émission radio, une émission électromagnétique, une émission qu'on peut détecter avec des antennes radio. Très simple d'ailleurs. Quasiment les antennes qu'on a sur notre voiture, des antennes pour écouter ce que vous écoutez là, la FM, la bande FM. On écoute d'ailleurs dans la bande FM.
Comment détecter justement ces neutrinos avec ces antennes radio ? On continue d'en parler plus en détail dans le reportage du jour avec vous, Noémie Eliazor. Bonjour.
Bonjour Natacha.
Alors pour le reportage justement, vous avez rencontré un autre chasseur de neutrinos.
Effectivement, j'ai rencontré Olivier Martineau. Donc les neutrinos, comme on vient de le dire, sont difficiles à observer car ils interagissent très peu avec la matière. Mais dans de rares cas, un neutrino cosmique peut interagir avec la croûte terrestre en émettant une particule appelée tau qui va pouvoir interagir elle-même avec l'atmosphère. Cette interaction génère une gerbe de particules qui émet dans le domaine des ondes radio. Et ce sont justement ces ondes radio que l'on va détecter dans le projet Grande. Grande, c'est donc un projet qui consiste à détecter des particules cosmiques d'ultra hautes énergies à l'aide de simples antennes radio. Et Olivier Martineau est physicien expérimentateur. Il travaille sur ce projet avec vous, Kumiko Kotera, et il nous explique la démarche.
Dans le cas d'expériences comme Grant, ce qui se passe, c'est que le neutrino va interagir a priori sous terre, parce que l'atmosphère terrestre n'est pas assez dense. Il n'y a juste pas assez de noyaux dans l'atmosphère terrestre pour qu'il y ait une probabilité d'interaction suffisante. Donc le neutrino interagit sous la roche, il crée une particule associée qui s'appelle un tau. C'est comme un énorme électron qui fait 4000 fois la masse de l'électron, mais c'est les propriétés qui sinon sont assez proches. Donc l'électron et le tau, ce sont aussi parmi ces 12 briques fondamentales de la matière. Ce tau, qui est donc très massif, il arrive à sortir de la Terre, et une fois qu'il est dans l'atmosphère, enfin, il peut évidemment se désintégrer avant, mais nous, on espère qu'il va se désintégrer dans l'atmosphère. Et quand il se désintègre dans l'atmosphère, à ce moment, il y a ce qu'on appelle une cascade de particules, c'est-à-dire des millions d'électrons, de positrons qui sont créés. Et associé au développement de cette cascade de particules, il y a de la radiation radio qui peut être observée par des antennes. Donc ça fait tout un processus qui est extrêmement indirect, qui est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que finalement, la physique qu'on fait, ça demande énormément de travail en amont avant d'être en mesure de détecter le neutrino.
Donc c'est ces émissions radio que vous exploitez pour détecter les neutrinos. De quelle façon vous vous y prenez ?
Ce qui se passe, c'est que le signal qu'on cherche est donc une impulsion radio. Donc radio, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des longueurs d'onde de l'ordre du mètre. En fait, la radio, c'est avant tout un rayonnement électromagnétique dans une certaine gamme de fréquences qui est plusieurs dizaines de mégahertz. Et donc ça se traduit avec des longueurs d'onde de l'ordre du mètre. Et ce qui se passe, notre détecteur, en fait, c'est simplement des brins métalliques. Alors là, vous ne pouvez pas voir à la radio, mais en gros, c'est deux brins métalliques. Ça ressemble pratiquement à ce que vous avez sur les antennes, sur les toits des maisons pour la télé hertzienne. Et on connecte ces antennes à l'entête. En anglais, on appelle ça la noix, c'est-à-dire en fait un élément central qui à la fois sert de soutien mécanique au brin d'antenne et puis aussi un système qui recueille le signal électrique. Donc pour décrire très simplement ce qui se passe, il y a l'onde électromagnétique qui arrive, qui passe au-dessus de mon fil métallique là, qui fait un mètre de long, et en passant, il met en déplacement les charges. Donc c'est simplement le champ électrique, n'importe quelle charge, donc un élément conducteur, les charges vont se mettre à se déplacer sous l'action de la force électrique, F est égal à Q fois E. Et donc ce déplacement de charge, il se traduit au centre de mon antenne, il se traduit par une différence de potentiel, parce qu'il y a une résistance ici, et là c'est une autre loi qu'on apprend au collège, U égale RI. Donc si j'ai un courant qui traverse le cœur de l'antenne, je vais avoir une tension. Et cette tension, je l'amplifie. Et je l'amène ici. Je vais mettre celle-là parce que là je peux l'allumer. Donc on va avoir des jolies lumières. Hop. Ça devrait aller. Tac, voilà. Donc en fait, il y a simplement un fil qui fait 3 mètres de long. Cette antenne, elle est accrochée assez haut au sommet d'un mât. Il y a un fil de 3 mètres et au pied de l'antenne, il y a ce boîtier-là qui s'appelle la front-end board, qui est donc le boîtier électronique avec ces câbles-là. Donc voilà, comme on est sur un banc de test, on l'a connecté à un générateur, mais en réalité, c'est connecté évidemment à l'antenne. Et là-dessus, il y a tout le traitement électronique. Alors ça, c'est la puissance aujourd'hui de la physique, c'est qu'on peut s'appuyer sur des systèmes de détection qui sont beaucoup plus performants qu'il y a 30 ou 50 ans. Et aujourd'hui, on peut faire une numérisation du signal à très haute fréquence, et donc adaptée aux fréquences qu'on voit.
Et donc là, vous me montrez une seule antenne, mais en réalité, Grande fonctionne avec un réseau de plusieurs antennes de ce type.
Ah oui, alors voilà. Là c'est effectivement une seule antenne. Et actuellement, sur notre site expérimental, sur notre prototype qui est déployé en Chine, on a 50 antennes aujourd'hui. On en aura 80 au printemps. On en aura a priori 300 dans 2 ans pour finir l'étape prototypage et validation du principe de détection. Mais l'idée ensuite, c'est d'avoir 2 phases. Une phase d'abord avec 10 000 antennes pour commencer à visualiser, à chercher les neutrinos et finaliser le design, le détecteur. Et une fois que ça, ce sera fini, on fige le design et on part dans une idée de production de masse des antennes. Et à terme, attention, en début de la décennie 2030, l'idée, c'est d'en avoir 200 000.
Et une fois qu'on a détecté ces neutrinos, ça nous donne une information sur la source d'émission.
Voilà, alors le point, j'ai peut-être pas précisé ça tout à l'heure, mais le point intéressant du neutrino par rapport aux autres particules cosmiques, c'est que ce sont des particules non chargées, donc qui vont voyager en ligne droite depuis leur source. Et une des choses qu'on espère faire avec le neutrino, c'est pas la seule, mais une des choses, c'est de répondre à une interrogation qu'on a depuis plus de 100 ans, c'est d'où viennent ce qu'on appelle les rayons cosmiques d'ultra haute énergie, qui sont des particules qui sont accélérées à une énergie au-delà de 10 puissance 20 électronvolts. Et l'énorme problème qu'on a avec ces rayons cosmiques d'ultra haute énergie, c'est qu'on ne connaît ni leur nature. Enfin, on a évidemment des hypothèses très fortes maintenant. On est à peu près certain que ce sont des noyaux, mais on ne sait pas exactement si c'est des noyaux protons ou alors un peu plus lourds ou alors même du fer. On ne sait pas d'où ils viennent, parce que c'est des particules chargées, donc elles sont défléchies dans leur parcours à travers l'univers, donc on ne pointe pas vers leur source, et on ne sait pas comment elles sont produites. C'est-à-dire qu'on a tout un zoo de sources potentielles, mais on ne sait pas lesquelles sont les bonnes, et si ça se trouve, il y en a plusieurs d'ailleurs. Donc, ce qu'on espère avec les neutrinos, c'est que comme ce sont des particules qui, elles, ne sont pas défléchies, et en regardant encore une fois à très haute énergie, on sait que ces neutrinos, ils vont être produits par exactement les mêmes processus, et donc au même endroit que les rayons cosmiques d'énergie extrême. Et donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir identifier les sources des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie en détectant les neutrinos d'ultra-haute énergie.
Merci Noémie Eliazor pour ce reportage. Kumiko Kotera, une réaction aux mots d'Olivier Martineau.
Ah, je trouve ça extra que vous ayez interviewé Olivier Martineau qui est vraiment mon alter ego dans la recherche. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble autour de ce projet, main dans la main. C'est quelqu'un avec qui on a tout construit. Il est venu me voir un jour à l'IAP, à l'Institut d'Astrophysique de Paris, en me disant, il rentrait d'un séjour de 5 ans en Chine où il avait joué avec des antennes radio. Et il avait très envie de construire quelque chose avec plein d'antennes radio pour détecter des neutrinos de ultra haute énergie. Et il vient me voir, il me dit, j'ai cette idée de mettre plein d'antennes, plein, mais je sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Et moi, je cherchais un projet pour détecter des neutrinos de ultra haute énergie à ce moment-là. Je lui ai dit, mais c'est génial, on y va, go! Et c'est comme ça que tout a démarré. On était 2 au début, et puis aujourd'hui, on est 120. Voilà.
Mais alors pourquoi passer justement par des antennes radio? Pourquoi avoir choisi de faire de façon, de faire différemment que le projet IceCube et KM3Net?
C'est vraiment, comme je disais, une question de volume. On peut pas, avec les moyens actuels, je pense, instrumenter assez de volume d'eau pour détecter les neutrinos de ultra haute énergie. Il faut quelque chose je pense que c'est un peu comme tuer une mouche avec, tout ça. Donc ce serait une technique beaucoup trop chiadée d'une certaine façon pour faire quelque chose qu'on pourrait faire avec plus de simplicité ou avec une technique différente en exploitant d'autres signatures. Donc la radio, c'est par essence quelque chose d'une technique simple. Même les détecteurs, les antennes radio, c'est des bouts de métal. Enfin, je dis, c'est pas du tout pour dévaloriser la technique, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit déployable à très grande échelle pour pouvoir couvrir des surfaces gigantesques. Là, on parlait de 10 000 à 100 000 kilomètres carrés. Et donc, à moindre coût unitaire et avec quelque chose de robuste. La radio, c'est robuste, c'est connu. Il faut développer les techniques, il faut faire de la R&D, parce que, bien sûr, il faut s'adapter à ce qu'on veut détecter, et les signaux ne sont pas simples, comme Olivier l'a expliqué. Mais, dans l'absolu, la radio, c'est quelque chose qui est vraiment destiné, je pense, à ce genre de détection à très grande échelle.
C'est ça, c'est pas cher, pas de maintenance. Là, tout ça, ça se met donc en place. C'est-à-dire que ça, dès cet été, on devrait avoir des résultats déjà à annoncer?
Oui.
Ah.
Pas en neutrino, parce qu'on n'a pas la surface. Mais la première étape pour notre projet, c'était de montrer que cette détection radio, juste avec des antennes, détection de particules, était possible. C'est une grande première. C'est un graal pour la communauté de pouvoir dire, OK, on va utiliser juste des antennes très simples et pouvoir faire cette détection de particules de ultra haute énergie. Donc là, on le fait non pas sur les neutrinos, mais sur les rayons cosmiques de ultra haute énergie qu'on connaît très bien, qui arrivent de façon très fréquente sur Terre. Et comme on connaît bien ces particules, si jamais on détecte quelque chose, on saura très bien si on comprend notre détecteur, si on détecte ce qu'il faut, etc. Donc on va pouvoir travailler comme ça et dire cet été, j'espère, qu'on est capable de mettre en place cette technique et d'aller à l'échelle supérieure pour détecter des neutrinos.
Mais comme vous le disiez auparavant et comme on l'entendait déjà dans le reportage, Grant ne va détecter que des neutrinos de saveur tau. Ça, j'imagine que ça va être important de pouvoir croiser avec d'autres informations, avec d'autres instruments qui vont détecter d'autres saveurs.
Absolument. C'est pour ça que donc c'est super d'avoir que les taux aussi. Parce que c'est pas si évident de distinguer un taux, par exemple, d'un électron dans d'autres, d'un neutrino taux, d'un neutrino électronique dans d'autres manips, dans d'autres instruments. Donc, ça nous donne, nous, une particularité qui est très sympa pour la communauté. C'est vrai qu'il y a d'autres expériences qui sont envisagées, en particulier une extension de Ice Cube, qui est donc ce bloc de glace instrumenté par des filins optiques en Antarctique. Mais donc là aussi, Ice Cube veut utiliser la technique radio. Donc tout le monde se rend bien compte que pour aller dans le gigantisme, il faut quelque chose de plus efficace que la lumière, enfin la lumière optique, cette émission de Tcherenkov. Et donc, sur une des extensions d'Ice Cube, ce serait de mettre des détecteurs, des antennes à l'intérieur de la glace pour capter certaines signatures, pareil, radio, mais qui se déploieraient dans la glace et qui pourraient voir d'autres saveurs.
Alors, quelles pourraient être les retombées concrètes de telles détections sur les développements technologiques futurs ? Mettre la main comme ça sur des neutrinos à ultra haute énergie.
Sur des développements technologiques.
Je pense applications, c'est toujours les questions.
Les applications futures. Je pense.
Qu'est-ce qu'on attend finalement, en fait, de toutes ces détections plus fines les unes que les autres ?
D'un point de vue de science fondamentale, c'est, je dirais plutôt. Enfin, il y a des retombées technologiques au niveau du développement radio, parce que tous ces. J'ai dit que c'était simple, mais ça ne l'est pas du tout. Et Olivier le dit d'ailleurs, toute cette électronique qui est capable d'enregistrer des signaux et de faire le tri entre le bruit humain et nos bruits, nos signaux très fins physiques, ça, tout ça, c'est beaucoup de développement. Et puis aussi d'ailleurs de faire communiquer des antennes sur des centaines de ou des dizaines de milliers de kilomètres carrés, ça aussi, ça va enrichir la R&D. De toute façon, pour les différents pans de l'humanité. Ok. Mais en dehors de ça, enfin, parce que nous, on utilise la technologie pour faire avancer la science fondamentale, notre objectif, in fine, c'est de comprendre l'univers violent. C'est comprendre ces sources violentes qu'on ne comprend pas bien, dont on ne comprend pas les mécanismes d'explosion, d'émission, et comment ça génère autant d'énergie. Tout ça, c'est très mystérieux. Et pour ça, il faut croiser le maximum d'informations possibles. La lumière, la saveur, le goût, le toucher, etc.
Alors, comprendre l'univers violent et faire des antennes radio qui écoutent des particules de ultra haute énergie, ça, c'est une aventure que vous racontez dans votre dernier ouvrage, L'univers violent, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Je vous propose un extrait. Notre mission primordiale était d'identifier un endroit propre en radio, loin de toute population émettrice. Alors nous sommes partis à l'assaut des déserts chinois. D'abord, Olivier et notre collègue néerlandais, Charles Timmermans, dans les montagnes de l'Ouest. Avec de beaux paysages, de belles mesures et des déconvenues administratives sur les routes, les empêchant de traverser les provinces. Et puis j'ai eu un fils, et un second. Je me demandais, est-ce que je peux continuer à pousser ce projet expérimental alors que je n'ai encore jamais visé une seule de ces antennes? Alors que je ne sais même pas à quoi ça ressemble là-bas. Aurélien Benoît Lévy, mon physicien de mari, m'a répondu. Mais oui, vas-y. Va voir tes déserts. Manipuler tes antennes. Discuter avec tes collègues chinois. Mettre les mains dans le cambouis. C'est sûr que ça va changer toute ta vision des choses. J'ai tiré mon lait pour 2 mois, au cas où, confié tout le reste à Aurélien, embrassé mes enfants, et je suis partie. Coupable de partir, coupable de ne partir qu'une semaine, coupable de ne pas être une expérimentatrice, sans attente et pleine d'attente. Voilà l'aventure grande qui est racontée dans vos pages. Ce livre, il est un peu écrit comme un roman d'aventure. Je me trompe, Kumiko Kotera ?
Ah, c'était l'intention. Ah. Je suis ravie que vous le disiez. Oui, oui. Il y a beaucoup de sciences dures, je pense, mais qu'il faut pas hésiter à sauter parce que... Oh. Non, mais parce que vraiment, l'idée, c'était de faire partager toute cette aventure, tout ce que nous vivons en tant que scientifiques, qui n'est pas que le gras de enfin le cœur de voilà, on a souvent cette image, je pense, des physiciens ou des chercheurs qui sont en train de manipuler des équations, qui sont devant leur ordinateur, mais c'est pas ça. C'est vraiment beaucoup plus vaste, beaucoup plus joyeux et voilà, une aventure humaine.
Ouais, vous décrivez en effet une communauté de physiciens et une joyeuse bande d'ailleurs qui apparaît dans vos pages. Vous dites il y a de la science dure, mais il y a aussi de la très belle vulgarisation dans cet ouvrage. Comme vous évoquez votre physicien de mari et vos deux fils, Kumiko Kotera, vous êtes née en France en 1982, de parents japonais. Votre père chimiste, est-ce que c'est lui qui vous a donné le goût des sciences ?
Entre autres, oui, je viens effectivement d'une famille assez scientifique. Mes deux parents ont vraiment une coloration scientifique. Et c'est vrai que j'ai vu mon père, qui est chercheur au CNRS, revenir le soir tard, après des journées où il est avec des hauts et des bas. Et ça avait l'air passionnant, c'est ce côté-là qui m'a plu, effectivement.
J'ai lu dans une interview, vous dites « Chez moi, traîner le magazine pour la science avec des images d'astronomie, d'Einstein et de trous noirs, ce qui me plaisait, c'était la poésie de tout ça et la méthode scientifique. J'avais grandi avec, grâce à mon père. »
Grâce à mes parents. Ma mère a été effacée là-dedans, mais mes deux parents.
Ah ben merci de rétablir aussi. Voilà. Elle faisait quoi, votre mère ?
Alors, elle était au foyer, mais c'est vrai qu'elle avait fait des études scientifiques et donc elle était vraiment, je pense qu'elle voilà, elle nous a baignés dans tout ça. Mais il n'y avait pas que ça. On a été baignés dans la littérature, etc.
Voilà. Mais quand est-ce que vous avez su que vous souhaiteriez, pour reprendre votre expression, apporter votre petite pierre à la cathédrale de la science?
Ce qui est assez marrant, ce que vous avez peut-être lu dans le portrait en question, c'est que, à la base, je voulais devenir écrivain. C'est ça qui m'animait quand j'étais petite. Et puis quand je suis, autour du collège, fin collège, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'aspirer à un métier plus sérieux. Ce qui y a de quoi rire, parce que écrivain ou astrophysicienne, dans les deux cas, c'est assez loufoque, ou en tout cas sérieux dans les deux cas. Et finalement, ce livre, qui est chouette, c'est que je conjugue ces deux aspirations que j'avais à l'époque où j'étais collégienne.
C'est la rencontre des étoiles et de l'écriture. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Kumiko Kotera, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Je rappelle que L'Univers Violent vient de paraître aux éditions Albin Michel. Tout de suite, on change complètement de sujet. On parle de botanique et de génétique. C'est la chronique avec science.
Comment les plantes sont-elles parvenues à coloniser les milieux terrestres ? Une équipe toulousaine a montré qu'un champignon aurait transmis une part de son patrimoine génétique à un ancêtre commun à toutes les plantes terrestres. Ces résultats sont à retrouver dans Nature Genetics. Imaginez-vous, il y a 500 millions d'années au Paléozoïque, la vie est apparue il y a déjà plus de 3 milliards d'années, mais les plantes sont restées cantonnées au milieu aquatique et soudain, une algue vivant probablement en eau douce, souvent émergée, se met à coloniser le milieu terrestre. Elle est vraisemblablement l'ancêtre de toutes les plantes terrestres de la planète. Alors on connaît encore mal cet ancêtre primordial, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que pour survivre et se développer sur la terre ferme, cette algue devait être aidée par des interactions fortes avec d'autres organismes comme les champignons. C'est d'ailleurs une caractéristique qu'on retrouve encore aujourd'hui chez beaucoup de plantes. On appelle ça des réseaux mycorhiziens. Chloé Beaulieu est la première autrice de cette étude et au moment des recherches, elle était doctorante au laboratoire de recherche de sciences végétales à l'université de Toulouse.
On a encore plein de zones d'ombre en fait sur à quoi cette plante ressemblait exactement et quel était son portrait robot physiologique mais aussi génétique. Du coup, nous, on s'est intéressé à une plante qui s'appelle Marquantia polymorpha. Son nom vernaculaire, c'est l'hépatique des fontaines. Et c'est une plante qui est un petit peu étudiée maintenant, mais c'est assez récent en fait. C'est une plante un peu comme une cousine des mousses, c'est une plante non vasculaire. Elle nous entoure, il y en a beaucoup en Europe, mais si on prête pas attention, on va pas les voir. Et c'est assez intéressant parce que généralement, dans la science quand même, les plantes qu'on va étudier, ça va plutôt être des plantes à fleurs, des plantes d'intérêt agronomique, ou alors des arbres comme des conifères, etc., parce qu'il y a des intérêts en fait industriels derrière, mais on passe à côté de tout un pan de la diversité végétale. Et donc nous, le but avec cette étude, c'était de s'intéresser à cette petite plante, Marcantia, et de comprendre en fait un peu mieux comment elle s'adapte à son environnement, pour savoir en fait à la fois ce que ça nous apprend de nouveau en fait sur la diversité des mécanismes que peuvent utiliser les plantes pour s'adapter, mais aussi en fait que ça complète à propos de notre vision de ce qu'on connaît déjà en fait chez d'autres espèces.
À l'aveugle dans son examen. Ils ont donc collecté plus d'une centaine de ces plantes et ont recherché les différences génétiques entre tous ces individus pour tenter de comprendre le rôle de ces variants génétiques dans l'adaptation de la plante à son environnement. Une fois que des gènes intéressants étaient mis en évidence, l'équipe les a recherchés chez d'autres familles de plantes. L'objectif était de savoir si ces gènes avaient le même effet chez d'autres organismes et d'éclairer aussi l'histoire évolutive de ces plantes terrestres. Alors, la publication regorge de résultats, mais nous allons nous concentrer sur une famille de gènes bien spécifiques qui code pour les lectines fongiques. Les analyses ont montré que ces gènes existent chez d'autres espèces de plantes terrestres, mais pas chez les algues, ce qui sous-entend que ces gènes sont apparus très tôt dans l'histoire évolutive des plantes terrestres, mais après leur sortie des eaux. Par ailleurs, ces lectines fongiques, comme leur nom le laisse penser, ce sont des protéines codées par des gènes présents chez les champignons. Les auteurs pensent donc qu'il y a eu un transfert de ces gènes depuis ces champignons vers l'ancêtre commun de toutes les plantes terrestres.
C'est un mécanisme qui s'appelle un transfert horizontal de gènes, donc par opposition au transfert vertical où c'est par reproduction classique. Et là, le transfert horizontal, c'est vraiment en fait un gène qui va être passé d'un organisme à un autre organisme qui peut pas avoir aucun lien de parenté avec, ne pas être de la même espèce, etc. Et il va permettre d'avoir un peu une solution clé en main. Si ce gène fonctionne bien dans l'ensemble génétique de l'organisme qu'il a acquis, il peut du coup être utilisé en fait pour répondre à des conditions spéciales, pour s'adapter, et de manière beaucoup plus rapide que quand on a par exemple des mutations. En quasiment une seule fois, on peut avoir un nouveau gène qui apparaît dans un organisme. Et du coup, ça a été prouvé d'ailleurs par une étude assez récente qui date de 2022 que dans l'histoire des plantes terrestres, on détecte beaucoup de ces transferts horizontaux qui ont été conservés, des grands moments en fait de transition pour les plantes terrestres, et notamment au moment en fait de la transition entre l'eau et la terre.
Ces transferts horizontaux ont donc joué un rôle essentiel dans l'adaptation des plantes à leur nouvel environnement avec ses contraintes et ses pathogènes. Pour le moment, il est difficile de dire précisément comment s'est fait le transfert, mais il aura fallu une forte proximité entre les plantes et les champignons. On peut donc penser à une infection ou alors à ces fameux réseaux mycorhiziens mutuellement positifs. C'est un résultat intéressant que nous propose cette publication qui permet d'étoffer nos connaissances sur la diversité des végétaux, et elle montre bien, cette étude, l'importance de varier les organismes et les sujets de recherche pour faire de nouvelles découvertes.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Merci à la réalisation à Olivier Bétard et à la technique aujourd'hui, Axel Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.